아멘. En introduction de mon message, je vous rappellerai, il y a, je crois, une quinzaine de jours, je vous avais parlé de la porte qui permet d'être sauvé. C'est Jésus-Christ, plusieurs prières l'ont rappelé ce matin avec précision. Jésus le déclare d'ailleurs de multiples manières, « Je suis le chemin, la vérité et la vie hein. ». On chante souvent ce chant que le Seigneur a mis sur le cœur de Serge, c'est vraiment un très très beau chant. Hein. Le chemin, la vérité et la vie. « Nul ne vient au Père que par moi ». Toutes ces choses ont été rappelées ce matin. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est la porte, je ne reviens pas, c'était mon message, mais vous voyez combien de versets nous pourrions encore rappeler ainsi. Quand on passe une porte, je le soulignais, on passe d'un lieu à un autre, d'une situation à une autre, d'un espace à un autre. Passer cette porte ouvre à une vie nouvelle. Simplement deux passages, un que... qui a été rappelé par Daniel dans sa prière. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, je suis dans Hébreu, hein, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. » Nous avons accès au sanctuaire. Alléluia. Et puis, je prendrai ce dernier passage en rappel, dans Colossiens 1, les versets 12 et 13, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, c'est un royaume de lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Nous avons passé une porte, Jésus, qui nous transporte. Notez bien, il n'est pas dit dans la parole du royaume des ténèbres, mais de la puissance des ténèbres. Parce que Satan n'est pas roi, il est prince. Il a une puissance, mais il n'a plus d'autorité. Donc on passe de la puissance des ténèbres, nous étions engloutis, au royaume. Et nous sommes transportés. Ça a été rappelé, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous sommes transportés, quelqu'un nous a pris, et nous a pris du... arraché, hein, c'est arraché de la puissance des ténèbres. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas besoin d'être habité de possession démoniaque pour être quand même pris dans les ténèbres. Lorsque nous étions aveugles, nous étions dans les ténèbres. Et il nous a pris, arraché et transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Jérusalem et nous, il y a un point commun. Nous sommes un royaume. En nous transportant dans son royaume, Jésus nous dit aussi, ne crains pas petit troupeau, il a plu au Père de vous donner le royaume. J'ai fait de vous un royaume. Nous sommes un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Jérusalem est aussi la capitale d'un royaume. Alors, je vous dis ça parce que ce matin, nous allons examiner les conditions de vie dans ce royaume. Et pour cela, je m'appuierai largement sur l'Ancien Testament et sur ce qui s'est passé pour Jérusalem. C'est légitime, car, comme je vous le dis, nous sommes nous aussi un royaume, individuellement et collectivement. Je ne vous donne pas tous les versets dans la parole, mais vous pourrez les chercher. Jésus lui-même le déclare. Hein. Il a fait, nous sommes son peuple, un royaume de sacrificateurs, donc individuellement et collectivement. Donc, ce qui s'est passé pour Jérusalem, je dirais historique, qu'on va lire avec toute l'histoire du peuple hébreu, nous a été donné pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Je veux avancer pas à pas parce que, dire mais il nous parle de quoi Jérusalem, quel est le rapport avec nous? C'est quelque chose que j'ai reçu très très fortement toute l'histoire du peuple hébreu, qui s'étend sur des siècles et qui n'est pas terminée, nous parle de ce que Dieu veut faire dans nos cœurs, à nous, dont il a fait un royaume et nous a transportés par le royaume. Nous sommes un royaume, notre être est un royaume, et nous sommes dans son royaume. Il vit en nous, nous vivons en lui. Alors, je vais vous donner tout de suite, parce que je vais lire beaucoup de passages de la parole, donc on ne va pas chercher à chaque fois. Je vais vous donner l'essentiel des textes dans lesquels j'ai puisé ce matin. Jérémie 2, 3, 4. Ensuite, le psaume 80, les versets 9 à 17. Ésaïe 5, versets 1 à 7. Osée 11, versets 1 à 8. Je pense que c'est des textes qu'on peut... Et puis, il y aura aussi Esdras, mais je vous l'ai déjà souvent donné, Esdras et Néhémie. C'est des textes qu'on peut relire dans la semaine avec profit, qui nous parleront. Alors, la vie dans le royaume. Je crois qu'effectivement, le titre de mon message, c'est « Les murailles et les portes ». Hein ? Jérusalem était entourée d'une muraille percée de portes. Alors, vous verrez pourquoi. La vie dans le royaume, c'est le règne de Salomon. Quand on regarde, quand on suit l'Ancien Testament, c'est le règne de Salomon qui est vraiment l'image prophétique. C'est une réalité, Salomon a régné, c'est là où le royaume était le plus étendu. Donc c'est vraiment l'image prophétique de la vie abondante pour le peuple des rachetés. Hein? Quand on regarde le royaume de Salomon, au temps de Salomon, le peuple d'Hébreu a quitté l'Égypte, a traversé le désert, a conquis Canaan, la conquête s'est terminée avec David, et le peuple est finalement entré dans la promesse faite à Abraham. Il occupe tout le territoire promis, il est dirigé par un roi dont la sagesse, la justice et l'équité sont réputées sur le monde entier de l'époque, puisque la reine de Saba elle-même viendra. J'avais entendu parler de sagesse, de ta richesse, de machin, mais alors là, ce que je vois, c'est encore au-delà de ce qu'on m'avait décrit. Elle a fait le déplacement quand même pour venir voir. Un roi qui a reçu de Dieu puissance et force, parce qu'il a été humble devant Dieu, dans sa demande au début de sa vie. Il a bien une figure du roi, de Jésus aussi, hein, comme il s'est humilié lui-même, Dieu l'a souverainement élevé. C'est bien cette vie abondante, résultant de la justice reçue de Dieu par le sacrifice de Jésus. N'oublions pas que Melchisédek est sacrificateur, Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, dont il nous est dit que Melchisédek, c'est d'abord le roi de justice. La première caractéristique de l'atmosphère du royaume, la justice. Hein? Et puis ensuite, la paix, c'est le deuxième Melchisédek est aussi roi de paix, nous rappelle la parole. Et Jérusalem est la ville de paix. Donc il y a bien concordance, ce royaume, c'est un royaume, la justice, la paix. Et plusieurs prières ont évoqué, je reviendrai à la fin, la joie. Pas n'importe quelle joie, la joie par le Saint-Esprit. Ce royaume donc a un roi qui siège à la capitale Jérusalem, et c'est là ce que trouve le sanctuaire, c'est le cœur du royaume. Et c'est de là que partent les décisions pour la conduite de tout le royaume. Je vous renvoie à ce sujet au message que Corneille a donné la semaine dernière sur le cœur. N'oublions pas que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, mais c'est aussi du cœur que viennent les sources de la vie. Donc il faut s'intéresser au cœur, c'est pour ça que nous nous intéresserons à cette capitale, à Jérusalem. La ville sainte, la capitale, est protégée par des murailles percées de portes, par lesquelles on peut entrer et sortir. Alors, la muraille, on va examiner un peu les deux éléments, la muraille protège de la venue des adversaires, c'est certain. Elle est haute, elle est épaisse, elle peut résister à l'époque, je ne sais pas quoi, aux flèches, il n'y avait pas de canon encore. Hein. Les murailles se sont adaptées hein, au fur et à mesure que les armes se sont perfectionnées. Donc la muraille protège des adversaires, première notion. Nous sommes un royaume, la capitale de notre royaume, nos têtes, nos pensées ont besoin d'être protégées. Donc nous ne croyons pas très fort. Nous avons besoin d'une protection. Mais avant cela, avant de protéger, la muraille a un rôle préventif parce que c'est un lieu de surveillance. Quand on est sur le haut de la muraille, on peut surveiller. Ésaïe 62, verset 6 nous rappelle « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. » Voilà pour la muraille. Quelques traits de la muraille. Protection, prévention, observation. Les portes permettent d'aller servir, combattre pour le royaume. La muraille et les portes permettent de vivre cette tension de la vie chrétienne, je crois. Jean va nous rappeler, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous allons devoir vivre dans le monde. C'est là qu'est notre place. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons besoin de la muraille pour nous protéger, pour qu'il y ait un ressourcement, pour être envoyés d'ailleurs. On verra différentes portes tout à l'heure. Et il y a cette tension parce que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais d'un autre côté, Paul va nous rappeler dans 2 Corinthiens 6, les versets 14 à 18, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Lorsque Paul déclare ça, vous savez, quand on va voir ces différents passages et ce qu'est devenu Jérusalem, on comprend que Paul dit ça. Il y a une véritable tension entre être dans le monde mais ne pas être du monde, être séparé sans être renfermé. Et là, on pourrait parler des heures, et je crois que ces combats sont particulièrement d'actualité. Ils demandent du discernement, mais aussi de la clarté. Ça a été dit aussi dans des prières, nous ne pouvons plus être mélangés. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit le Seigneur qui sépare ce qui est précieux, ce qui est vil dans nos cœurs. Et on a besoin du secours, vraiment, du Saint-Esprit. Et j'ai besoin du secours du Saint-Esprit ce matin pour vous partager cela. Alors nous allons, ce thème de la nécessaire protection du peuple, c'est ma première pensée. Nous avons besoin de protection. Nous avons besoin d'être protégés dans notre marche chrétienne. Il y a de grosses difficultés lorsque on a reçu le salut et hop, on se met à gambader tout, n'importe où. Il y a un problème. Nous avons besoin de protection. Nous avons besoin. Notre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. En ces temps, tandis que nous sommes sur cette terre, viendra le temps, nous le verrons face à face, viendra longtemps de son règne. Mais aujourd'hui, reconnaissons, frères et sœurs, que nous avons besoin de la nécessaire protection de murailles. C'est rappelé ça avec des textes magnifiques, avec l'image de la vigne. Vous savez que j'aime beaucoup cette image de la vigne. Peut-être parce que mon père a fait du vin pendant 40 ans, mais je crois surtout parce que c'est une image que le Seigneur choisit, cette vigne porteuse de vie, mais qui a besoin, qui est en même temps fragile. Dans le psaume 80, les versets 9 à 17, « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée, tu as fait place devant elle. » Ça nous raconte ce que Dieu a fait pour son peuple. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme les cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Nous décrivons là le règne de Salomon. Le royaume, l'œuvre de Dieu qui s'est accomplie. La promesse est réalisée. Et la promesse doit se réaliser dans nos vies. Nous sommes appelés à vivre la plénitude. Nous sommes appelés à vivre le règne de Salomon, spirituellement. C'est ça qui m'intéresse dans tout ce que je vais dire. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent, le sanglier de la forêt la ronge et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne, protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée, ils périssent devant ta face. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Le psalmiste, ce psaume est écrit justement quand Jérusalem est détruite. Le psalmiste pleure, mais dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est la question que je voudrais voir ce matin avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce règne de Salomon, magnifique, cette plénitude de vie que Christ veut nous donner, qu'est-ce qui s'est passé pour le règne de Salomon? Qu'est-ce qui peut se passer dans nos vies pour que cette vie soit pillée, détruite, et que nous soyons comme en exil, alors que nous avons reçu la plus belle chose qui soit, le salut en Jésus-Christ? Voilà la question que je voudrais regarder avec vous. Nécessité de la protection, encore décrit dans Ésaïe 5, versets 1 à 7, « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. » Vous savez que sa vigne, c'est son peuple, mais c'est aussi son église. « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plant délicieux. » Ce qu'il a fait avec son peuple, il l'a sorti d'Égypte, il l'a conduit au désert pour lui montrer ce qui était dans son cœur. Il l'a planté dans la terre promise, après avoir nettoyé devant lui, avoir chassé les tribus. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Pourquoi il bâtit une tour au milieu de sa vigne? Pour surveiller l'ennemi. Et puis pour qu'il y ait un refuge. La tour, c'est les deux sens. C'est une tour d'observation, c'est une tour de refuge. Dieu est une tour forte, je peux m'y réfugier. Je peux y courir. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, et homme de Juda, soyez juge entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore affaire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Il a envoyé son fils. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, elle a produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. C'est des paroles difficiles, mais je crois qu'ils peuvent nous enseigner, qu'ils nous enseignent sur la patience de Dieu à notre égard. Quelle patience avec son peuple! Il va s'écouler 400 ans, grosso modo, entre la splendeur de Salomon, la vie en abondance et la déportation à Babylone. C'est pas venu en un jour. Dieu s'est pas fâché comme ça, ne s'est pas détourné de nous. Il a fallu vraiment s'éloigner, et c'est ce que nous allons examiner, causes et conséquences de la ruine de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que la promesse de Dieu étant réalisée, donc je m'adresse bien à des chrétiens nés de nouveau, entrés, non seulement sauvés, mais qui ont déjà marché, qui ont été libérés, délivrés, qui ont connu la vie en abondance et qui se sont fait piller. C'est terrible ça. Il y a une solution, mais c'est terrible. Parce que lorsque des hommes et des femmes qui ont connu Christ, qui se sont donnés, qui ont marché, qui ont grandi, se laissent de nouveau piller, c'est l'Église qui est pillée. Parce que ces chrétiens matures, l'Église en a besoin pour ceux qui arrivent. Nous voulons que ceux qui ne connaissent pas viennent. Mais qui vont-ils trouver? Mais qui vont-ils trouver? Alors les causes et les conséquences de la ruine de Jérusalem, bien sûr, il y a l'idolâtrie de Salomon. Le détournement, dans la fin de sa vie, il s'est détourné. On peut le prendre au premier degré, attiré par les femmes, séduit. On sait que c'est le problème de la chute. Hein. Disant cela, quoi, ne vous trompez pas, je ne suis pas en train d'accuser les femmes, mais la séduction, la lâcheté de l'homme qui se laisse embarquer, etc. Et toutes les conséquences. Dans Osée 11, au verset 1, il est dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant dans ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. » Alors ce verset me touche énormément. Combien ne voit pas que les circonstances permises dans nos vies, qui peuvent paraître des combats, des choses difficiles, c'est Dieu qui est en train de nous amener à un endroit pour dire « Reconnais là ce qui se passe. Parce que je veux te guérir. » Ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug auprès de leur bouche et je leur présentais de la nourriture. Et là, Dieu va dire quelque chose. Ils ne retourneront pas en Égypte. Mais l'Assyrien, c'est-à-dire Babylone, hein, sera leur roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Alors là, il y a quelque chose, un avertissement solennel. Le Seigneur nous montre, nous révèle. Il nous demande juste une chose, et je développerai, de revenir, de reconnaître. J'ai l'impression de dire un peu souvent les mêmes choses, mais je crois vraiment qu'il y a besoin. Je ne peux pas gommer tous ces textes de la parole. Tous ces textes de la parole qui nous parlent de la marche chrétienne. Il y a la joie initiale du salut, rends-moi la joie du salut, mais il y a cette marche. Le but, c'est que nous saisissions ce qui nous arrive de la bonne manière. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. Alors, j'ai puisé dans les textes de Jérémie 2, 3, 4, nous indique très précisément toutes les causes de la ruine, et je dirais leur enchaînement. Les causes, le peuple, au lieu de recevoir la bénédiction, a douté de Dieu. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Le doute va conduire au murmure dans le cœur, mais on ne l'avouera pas ce murmure. On est trop religieux pour ça. Ce serait dévoiler que notre foi, elle peut chanceler par moments. Mais rappelons-nous simplement que la foi, c'est encore Dieu qui nous la donne. Nous sommes gardés. Rappelons-nous la parole à ce moment-là de Dieu. Seigneur, il y a le doute qui vient dans mon cœur. Seigneur, je crois que je suis gardé dans la foi par ta puissance. Par ta puissance. Encore faut-il avoir lu cette parole. Dans la Pierre, vous tous qui êtes gardés dans la foi, par la puissance de Dieu. Vous voyez la nécessité de la connaître, cette parole, pour qu'on puisse la saisir au moment où nous allons défaillir. Donc, retenez, premièrement, le doute qui conduit au murmure. Si on ne reconnaît pas à ce stade-là qu'on a une faiblesse. Je le dis parce qu'on est peut-être trop religieux. Non, je suis costaud dans la foi, je crois, et puis je proclame. Si on ne cherche pas de l'aide tout de suite, va venir l'idolâtrie. Alors l'idolâtrie, c'est la phase où, en plus du vrai Dieu, on commence à placer sa confiance ailleurs. Parce que c'est ça l'idolâtrie. Hein. C'est Dieu qui ne suffit pas. Au début, c'est Dieu qui ne suffit pas. Parce que le doute est venu, on l'a un peu diminué, Dieu. Alors on met un petit substitut à côté. Puis un autre. Puis encore un autre. Mais je rappelle, c'est là le piège de l'idolâtrie. C'est qu'au début, on continue d'adorer Dieu. On continue de proclamer, c'est Dieu, en lui, en mon refuge, etc. On peut même continuer de proclamer le nom de Jésus. Mais on a des petits substituts à côté qui poussent. Pour régler nos problèmes quotidiens. On fait confiance à Dieu, mais sauf pour ça. Bon, pour ça, c'est normal, il y a ce qu'il faut dans le monde, on va traiter avec ça. Alors, attendez, je ne dis pas... Oui, tout ça, c'est cette tension. Parce que le Seigneur ne nous dit pas de n'utiliser aucun moyen du monde. Mais il nous dit, usez du monde comme n'en usant pas. Usez du monde comme n'en usant pas. Ne mettez pas votre confiance dans ce que le monde va vous proposer. Nous retrouvons cette tension. Vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Vous regardez les choses, vous utilisez, vous voyez des choses. Le Seigneur nous le dit de plein des manières. Il ne nous dit pas de pas manger même de choses impures. Il dit manger de tout ce qu'il y a au marché, acheter de tout ce qui se vend au marché, sans vous soucier de rien pour motif de ce conscient. Seulement si l'on vous dit telle chose, ah, attention, telle chose c'est bon pour ceci, c'est bon pour la santé, si tu prends ça... Ah, attention, là moi non. Je mange de tout, pas de problème. Les épinards, c'est bon pour le sang. Mais je ne place pas ma confiance dans les épinards pour ma santé. Bon, je prends des exemples un peu triviaux. Mais vous voyez, il faut qu'on comprenne ces choses-là. L'idolâtrie, c'est On enlève au début, oh, c'est juste un petit coup d'ongle, clac. Je place toute ma confiance en Dieu, ça c'est ce que je dis. Et puis à côté dans ma vie, j'ai mes petits trucs pour ceci, pour cela. L'idolâtrie, c'est ça. Ne résumons pas l'idolâtrie à des statues de plâtre. Quoique les statues de plâtre, vaut mieux les virer quand même. Hein. Mais attention, l'idolâtrie, c'est l'adoration qui est volée à Dieu. On en vole un petit bout, puis un autre petit bout, et à la fin, on vira tout. Donc, le doute amène le murmure, et je cherche des substituts. Voilà la progression. Et puis, à force d'avoir écorné la confiance en Dieu, d'avoir repris d'autres voies du monde, on retourne vers les solutions d'avant. Et maintenant, dans le verset 18 de Jérémie, « Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil ? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve ? Je te suffis pas, moi. Je te suffis pas. Il faut que tu retournes à tes vieilles solutions. » Puis au final, l'abandon de Dieu et le remplacement par un système religieux. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. On a remonté tout un système pour se sentir bien. Tout un système qui ira jusqu'à fabriquer une joie, une ambiance. Mais ce n'est pas la joie du Seigneur. Elle va retomber. À quoi on verra ? C'est qu'elle va retomber. Une fois l'ambiance quittée, elle va retomber. L'attitude religieuse conduit un mensonge à soi-même que Dieu dénonce. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes. Verset 33. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes. Également vient le raisonnement pour faire taire les derniers avertissements de l'esprit. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi parce que tu dis, je n'ai point péché. Ça, attention. Dieu est patient. On peut encore avoir des bénédictions, mais il n'est plus d'accord. Je m'appuie juste sur la parole pour parler de ça ce matin. Attention, ne nous laissons pas avoir. Il y a des nations qui ont marché avec Dieu et qui s'en sont détournées. Il y a encore des bénédictions. Alors ils disent, tout va bien, c'est encore nous parce qu'on a encore les bénédictions, notamment matérielles. Erreur. Erreur. Dieu s'est peut-être retiré depuis longtemps. Attention à ces raisonnements qui font taire. Dieu, il avertit, n'éteignons pas l'esprit. Soyons attentifs. Pas torturé, attentif. Attentif. Seigneur, est-ce bien toi là qui parle ? C'est vrai que l'ennemi, demandons conseil. On est dans un corps. Il y a des fois, est-ce que c'est l'accusation de l'ennemi ? Un frère qui nous connaît, une sœur qui nous connaît, c'est-à-dire, là c'est l'ennemi. Attention aussi quand on donne des conseils. C'est pas facile, c'est plus facile de dire, oh c'est l'ennemi qui t'accuse, continue, t'es béni, ça va. Pas facile de dire à quelqu'un, il y a peut-être quelque chose là dans ta vie qui colle pas. Le Seigneur veut te parler. Aimons, accompagnons. Plus facile de caresser dans le sens du poil. Hein. Vient ensuite l'endurcissement. L'image de l'endurcissement, j'ai tous les voyants sont en rouge, mais on continue de proclamer que ça va bien. Tous les voyants sont en rouge. Mais ça ne s'est pas fait en deux jours. Alors on a eu un voyant qui s'est allumé il y a 3 ans, un autre il y a 1 an, un autre il y a 6 mois, mais c'est un par un. Mais tout le tableau de bord, il est au rouge en fait. Ainsi, les pluies ont-elles été retenues ? Et il y a des choses qui commencent à disparaître de nos vies. Et la pluie du printemps a-t-elle manqué ? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries à moi, mon père. Tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère ? La conservera-t-il à jamais ? Et voici, tu as dit, tu Tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. Jacques nous rappelle que personne dit c'est Dieu qui me tente, car il ne tente personne, il n'est lui-même pas tenté par le mal, mais nous sommes amorcés par notre propre convoitise. Puis la convoitise ayant conçu, enfante le péché consommé produit de la mort. Les choses ne se font pas. Ne faisons pas joujou avec tout ça. Et puis, après l'endurcissement, c'est la révolte ouverte. Finalement, on finit par dire clairement que Dieu, il ne m'a pas écouté, Dieu m'a abandonné, Dieu machin, etc. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Voilà des cris, ça vous paraît peut-être difficile, mais c'est des choses qui se passent dans les vies. Moi, ça brise mon cœur. Quand je vois ça, comment ça commence, et puis qu'à la fin, c'est Dieu qui a tort. Frères et sœurs, Dieu n'a pas tort. Que tout homme, que Dieu soit tenu pour vrai, tout homme pour mentor. Dieu n'a pas tort. Si ce matin, tu es là, tu as prononcé ça, Dieu n'a pas compris, Dieu ceci, Dieu, je t'en supplie. Pourquoi c'est grave? Parce qu'à ce stade, les portes, là c'est les mauvaises portes qui ont été ouvertes. Et l'ennemi s'est infiltré jusqu'au cœur de Jérusalem. Je vous parle de Jérusalem, de l'histoire de Jérusalem. Ce que je vous ai dit là, ça s'est déroulé sur des siècles. Mais n'empêche que le résultat, vous pourrez le vérifier dans l'Écriture, c'est que Jérusalem du coup a pu être assiégée. Il y a des choses qui se sont infiltrées et ça va se terminer par la ruine. La ruine de Jérusalem qui va être brûlée, les murailles détruites et les portes viré. De toute façon, des portes sur une muraille détruite, ça ne sert plus à grand-chose. Ces choses qui se sont produites les unes après les autres, qui peuvent se produire dans les vies, amènent que le cœur a été complètement... Le cœur, la capitale, Jérusalem, c'est l'image de notre cœur, de cette capitale, là où se prennent les décisions. Tous les instruments de mesure sont faussés. Ézéchiel 8, 9, 10, je ne vous le dis pas, mais nous présente l'idolâtrie au cœur de Jérusalem. Dieu va montrer à Ézéchiel ce qui se passe dans le temple de Dieu. L'Esprit est encore là. Il va se retirer, hein, juste avant qu'il se retire. Mais il montre la fornication, il montre le trafic qui se passe. L'Esprit va se retirer. Mais quelle patience! La protection ainsi ôtée, la protection spirituelle, convenue par la désobéissance, la révolte, le murmure, etc. La protection est ôtée. L'ennemi va assiéger Jérusalem. Il ne va plus avoir de problème. C'est même Dieu qui va l'envoyer. Lui imposer les tribus d'abord, puis les alliances contre nature, sur les bases humaines, vont se multiplier. Ça nous parle des réalités pour l'Église aujourd'hui. Attention, attention. L'ennemi assiège. Le monde veut imposer des tribus, son joug, ses méthodes à l'Église de Jésus-Christ. Propose des alliances contre nature sur des bases humaines et ça va se multiplier. Y compris par des serviteurs zélés tels que Josaphat qui va se faire avoir. Il va se repentir, il va revenir, mais il va passer des alliances sans rien demander à Dieu. Tenez-vous bien, l'alliance qui va passer, c'était pour aller combattre un ennemi soi-disant commun. Et là, nous retrouvons les paroles de Paul. Attention, veillons, discernons les murailles. Il faut qu'on ait du monde sur les murailles pour regarder ce qui se passe, comprendre, saisir avant de dire « Oh oui, ça c'est sympa, on y va, on a besoin de tout ça ». Et finalement, malgré les avertissements multiples et un premier châtiment d'Israël, puisque vous savez que le royaume d'Israël va connaître une fin, une déportation avant Judas, ça aurait pu te servir de leçon à Judas. Rien du tout. Rien du tout. Parce que le processus était enclenché. Judas continuera de s'enfoncer et de s'endurcir jusqu'à la déportation et la destruction de Jérusalem. Dans 2 Chroniques 36, les versets 15 et 16, il nous est dit ceci. « L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir. Car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Dieu avertit pour pas que son temple soit détruit parce qu'il aime sa maison. Il nous aime, il nous avertit de toutes ces démarches. Où en sommes-nous? Où est notre curseur sur tout ce que je viens de décrire? Le Seigneur ne veut pas cela. Ce n'est pas volontiers qu'il afflige. Car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre ce peuple devint sans remède. Mais même quand il y a cette colère, il va dire dans Jérémie 32, je ne peux pas te laisser impuni, mais j'irai te rechercher. Mais je ne peux pas te laisser impuni. Alors, on vient de regarder comment les murailles sont tombées, se sont effondrées. Et là, c'est fini, c'est la ruine. Reconstruire les murailles et les portes, je l'ai dit, c'est d'abord revenir. J'avais dit dans une prédication précédente, reconnaître et revenir, mais je voudrais vous lire là deux textes dans Jérémie 3 pour que ce sera mieux que mes paroles. Voir comment Dieu, écoutez, Corneille le rappelait, Dieu dit, donne-moi ton cœur. Et là, Dieu dit, mais reviens. Il supplie. Jérémie 3, versets 11 à 15. Jérémie 3, versets 11 à 15. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Judas. Va, crie ses paroles vers les septentrions et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Reconnais que tu as dirigé çà et là tes pas vers des dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous ramènerai à la Jérusalem. Je vous ramènerai sous le règne de la paix de Salomon. Je vous ramènerai à la plénitude de vie. Je vous ramènerai. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Jérémie 3, encore verset 19. Je vais lire jusqu'à 4, verset 2. Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants? Et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations? Je disais, tu m'appelleras mon père, et tu ne te détourneras pas de moi. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Oui, le bruit vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères, dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Israël, si tu reviens, Si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture, avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Retenez ce verset, si tu ôtes les abominations de devant toi, tu ne seras plus errant. L'errance. Combien l'errance tient une grande place dans le monde aujourd'hui. L'errance des nations, mais pas seulement. Combien d'errances de vie qui vont de ci, de droite, qui essayent, qui machin. Parce qu'on ne se confie pas vraiment à l'Éternel. L'Éternel n'est pas tordu, l'Éternel n'est pas pervers. Il ne conduit pas n'importe comment les vies. J'entends des fois, l'Éternel, le Seigneur m'a dit ceci et cela. Et... Oh, les chemins ne sont pas tout droits. Mais quand on se retourne normalement, on voit qu'il a agi. On voit qu'il n'a pas fait n'importe quoi. Il ne nous a pas fait souffrir inutilement. Il ne nous emmène pas dans des endroits, dans des circonstances, juste comme ça. Ce n'est pas un Dieu sadique. Ça a du sens. On ne le comprend pas au moment où on le vit, forcément, mais ça a toujours du sens. Quand on se retourne normalement sur notre marche chrétienne, on doit se dire, « Ah Seigneur, je n'avais pas vu, mais ça y est, je vois à quoi ça m'a servi, ça. » Attention à l'errance. Le Seigneur veut. Il nous donne la source de l'errance. Alors revenir, et puis restaurer et réformer. Ce sera ma conclusion. À travers les deux livres d'Esdras et Néhémie que je ne vais pas développer, mais ce sera plutôt dans une partie de conclusion. Il y a toujours une solution avec Dieu. Aussi loin, il l'a promis. Si vous me désobéissez, je vous disperserai. Mais dès que vous allez décider de revenir, je vous rassemblerai, même si vous étiez au bout de la terre, un par un, je vous ramènerai. Là, il y a une promesse qui est certaine. Et la restauration, je vais continuer avec le temple et Jérusalem, la restauration du temple, elle a été faite par Zorobabel. Je soulignais par là que quand il y a cette restauration qui vient, il faut encore être prudent. Quelque chose m'a marqué. Alors que le temple est restauré par Zorobabel, je passe sur les combats. Il n'a pas dit que ce serait facile. Et les temps de l'Église, je pense, sont des temps où le Seigneur, il est dit, j'ai cette parole, le jugement va commencer par son Église. Il va nous épurer. Il va nous épurer. Il va nous épurer. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Je peux vous dire que la restauration du temple, il y a eu des luttes. On les a des fois développées, certains les ont développées. On pourrait y revenir. Ça ne s'est pas fait. Il y a eu des interruptions, il y a eu de la lutte, il y a eu de la séduction, du découragement, vous n'y arriverez pas, etc. Mais finalement, il a été reconstruit. Et ce qui me marque, c'est que dans Esdras 10, les versets 2 à 5, après que le temple, il y a les dédicaces, tout va bien, c'est un temps de réveil, un temps de réforme, réussi. Et il est dit, tout de suite après ces jours-là, les responsables viennent voir Esdras et disent, ça y est, c'est reparti, le peuple s'est remis à se marier avec les femmes du pays, c'est le bazar. Attendez, juste après un temps de réveil et de restauration. Et je me suis dit, ça finira jamais. Ben non, ça finira jamais. Jusqu'au bout, l'ennemi, il va essayer de détourner. Mais ce que je veux retenir ce matin, c'est que la restauration est possible. Les murailles et les portes. De même que c'est à partir du cœur que les choses vont se dégrader, de même le Seigneur va revenir au cœur pour la restauration. Il commence par le temple, et ensuite ça va être Néhémie qui va refaire les murailles. Parce que ce n'est pas parce qu'on s'est éloigné et qu'on est revenu qu'on n'a pas besoin de protection, je dirais encore plus. Et le Seigneur va rebâtir les murailles. Néhémie, avec humilité et détermination, va rebâtir les murailles. Séparation et protection nécessaires. Mais la muraille sans les portes, nous devenons un pot de sel ou une lumière sous le boisseau. Une muraille qui n'aurait pas de porte, vous imaginez? C'est des chrétiens qui vivraient comme ça entre eux. Alors on est sel et lumière, mais on n'est pas pot de sel. Le sel, c'est pour saler quelque chose. C'est pour donner de la saveur au monde. Et c'est pour ça qu'il y a les portes. Les portes vont permettre d'aller et de manifester le royaume de Dieu et d'impacter. Les portes nous parlent aussi de nos activités. Il y avait la porte des brebis, la porte des poissons, la porte du fumier. Ça, c'est pour évacuer ce qui n'est pas bon à l'extérieur. La porte des chevaux. C'est-à-dire, ça nous parle des activités humaines. Nous ne sommes pas des zombies. Nous avons, dans ce monde, une fois que nous sommes bien rechargés à la capitale, dans nos pensées, une fois que tout ça est bien mis en ordre, nous sommes appelés à être sel et lumière, à impacter. Mais pas n'importe comment, en passant par les portes. Et la porte, je le rappelle, j'avais dit, la porte, il y a une limite. Que tout se passe en bon ordre. Mais on n'aime pas ça. Il y a beaucoup de portes. Les portes sont variées. Celui qui s'occupait des poissons, ce n'est pas celui qui s'occupait des brebis et qui sortait le fumier. Mais tout le monde avait sa place. Mais l'activité, on va ressortir par la porte. On a eu cette promesse. Je suis la porte. Ceux qui rentreront par moi, ils pourront entrer et sortir par les portes, pas par-dessus la muraille. Lorsque les murailles sont effondrées, c'est nous sommes du sel qui a perdu sa saveur. Et nous cherchons tout au plus à séduire le monde par une philosophie chrétienne, mais le monde, qui est spécialiste pour détecter les ruses, pour détecter le mensonge chez l'autre, ne sera pas changé. L'image que j'ai, c'est vraiment celle-là. Nous avons besoin de rester sous la protection des murailles et de sortir pour impacter le monde par les portes. Sinon, nous sommes du sel sans saveur. Et vous savez à quoi est destiné le sel sans saveur ? À être foulé aux pieds. Le monde nous foulera. Le monde nous foulera parce qu'on n'aura rien à lui apporter. Le monde nous foulera parce que nous n'aurons rien à lui apporter, sauf des systèmes qu'il connaît parfaitement bien. Alors, je crois que ce matin, nous sommes appelés, je vous ai parlé de justice et paix, Jérusalem. Si nous acceptons ce chemin de, à la fois, séparation et de sortir par les portes, d'être envoyés pour faire ce qu'on en a à faire, après avoir vérifié par la prière, par être alerté par les uns ou les autres, être envoyés pour accomplir ce que nous avons à faire, et là nous serons sel et lumière.